notre série d'été, c'est les messages préférés des orateurs. Alors, j'ai le privilège, puisque je prêche quelques fois pendant cet été, de vous donner un deuxième message qui, pour moi, est de mes préférés de tous les temps. Et la différence entre celui-ci et celui-ci de la semaine dernière, c'est que la semaine dernière, j'avais donné crédit à la personne à qui je l'avais piqué, si on voulait, d'accord. Mais là, celui-ci, c'est le mien, d'accord. C'est moi qui l'ai préparé, donc là, je suis vraiment très très content. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il est bon, c'est simplement un message que moi, j'aime de tout cœur, d'accord. Parce qu'il m'a profondément bouleversé quand j'ai eu l'occasion de le préparer il y a quelques années de cela, d'accord. Donc, j'ai donné un nouveau titre cette année, aujourd'hui, « Ce n'est pas juste ». Ce n'est pas juste, et comme sous-titre, la grâce incroyable ou la grâce merveilleuse de Dieu. Et donc, c'est bien sûr un message sur la grâce de Dieu. Alors, allez avec moi dans Matthieu 20 et on va lire le texte. Matthieu 20, alors si vous étiez ici l'année passée, je crois qu'en fait j'ai donné ce message même l'année passée, d'accord, mais j'aimerais lire ces quelques versets parce qu'ils vont nous plonger dans le contexte de ce message. Donc on est dans Matthieu 20 et le verset 1. C'est la parabole des ouvriers. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Et il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième heure, et il fit de même. Et étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Et ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Marc, j'entends pas là. D'accord ? Mais c'est pas grave. Donc, cette parabole est une parabole incroyable, parce que c'est une parabole qui nous parle de la grâce de Dieu. Alors, c'est vrai que c'est un texte émotionnel, je suis une personne plutôt émotionnelle, et cette parabole est très émotionnelle. En fait, quand j'ai préparé ce texte, il y a bien des années en arrière, c'est un des rares textes où j'ai carrément pleuré pendant que je préparais mon texte, tellement il m'a personnellement touché au fin fond de mon cœur. Il fait battre mon cœur, et même là en l'anticipant ce matin, parce que il m'émerveille. Il fait battre mon cœur à toute vitesse, parce que je suis fasciné par ce que ce texte nous explique. C'est un peu comme les anges, vous vous rappelez dans 1 Pierre 1,12, les anges plongèrent leur regard avec étonnement vers les hommes pour voir la grâce de Dieu à leur égard. Parce que les anges ne peuvent pas être sauvés, ils ne sont pas sauvés. Il y a des anges déchus, il y a des anges qui sont normaux, si vous voulez, mais ils ne peuvent pas être, eux, sauvés. Donc, le texte nous dit que les anges regardent avec émerveillement le fait que Dieu donne sa grâce aux hommes pour les sauver par Jésus-Christ. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, je pourrais vous communiquer un petit peu de cette émotion par cette parabole. Alors, un des trucs avec cette parabole, c'est qu'elle dérange. Elle dérange parce qu'après une lecture préliminaire, notre réaction, c'est simplement de dire « Ce n'est pas juste », dont le titre. « Ce n'est pas juste ». Et on n'a pas l'impression que ce qui arrive dans cette parabole est équitable. Mais justement, c'est ce sentiment d'injustice que le Seigneur Jésus-Christ, en racontant cette parabole, veut que nous sentions. Cette émotion d'injustice est ce qu'il veut que nous comprenions, parce que nous allons comprendre que la grâce de Dieu, à titre humain, n'est pas juste. Elle n'est pas juste. La grâce de Dieu n'est rien d'autre, mes amis, que miséricorde, rien d'autre que bénédiction non méritée de la main généreuse de Dieu. Voilà pourquoi cette parabole nous dérange, parce que là, nous voyons un don de Dieu qui ne devrait pas être. Et donc, cette grâce, lorsque nous la comprenons, perturbe. Alors, la grâce, c'est quoi ? La grâce, c'est quoi ? Je vous la définis. C'est l'amour et la faveur imméritée de Dieu, gratuitement accordée aux hommes par Dieu. En fait, la grâce, c'est de recevoir de Dieu ce que nous ne méritons pas. Par exemple, dans Éphésiens 2, il est dit ceci, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc la grâce, c'est quoi ? C'est de recevoir le don de Dieu du salut pour nos âmes. Ça, c'est la définition de la grâce de Dieu. Donc, vous venez de comprendre la parabole. Donc, si vous voulez prendre une sieste, vous pouvez maintenant, vous avez plus ou moins compris le but. Mais je pense que ce sera intéressant de voir pourquoi cette parabole est dans le texte. Donc j'ai trois points, il n'y a même pas besoin de le marquer parce que c'est tellement simple, d'accord ? Trois points, premièrement, la parabole, deuxièmement, le pourquoi, donc le pourquoi de la parabole, et numéro trois, les principes évoqués de la parabole. Alors premièrement, parcourons la parabole. Chapitre 20 de Matthieu, verset 1. Regardez. « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de... maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. » Donc elle est simple. Cette parabole décrit un aspect du royaume des cieux, du royaume de Dieu. D'accord ? C'est le règne ou l'économie de Dieu sur terre. Et l'histoire elle est simple. Il y a un maître qui possède un vignoble important. Le temps des vendanges est arrivé. Il est donc le mois de septembre en Israël. Et le verset 1 nous dit que le maître va engager des ouvriers pour sa vigne. Donc il va très tôt le matin. La journée juive commençait à 6 heures du matin et termine à 6 heures du soir, une journée de 12 heures du travail. Et donc, il va à la place du village pour engager des ouvriers qui attendaient là à être engagés. Verset 2, il convint avec eux d'un denier par jour et les envoya à sa vigne. La place du marché était l'endroit où l'aide temporaire était trouvée. Donc, il engage des gens et on apprend qu'il convient avec eux d'un denier. Donc voilà, va travailler dans ma vigne pendant 12 heures et je te paierai un denier. Alors, il faut savoir que denier était le salaire correct. C'était le salaire journalier d'un soldat romain. Donc, un bon, correct salaire. Alors, les soldats, bien sûr, étaient des professionnels. Un ouvrier dans les champs n'était pas un professionnel. Donc, pour lui, c'était un très bon salaire. Même. Verset 3, il sortit vers la troisième heure et en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Et il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui est raisonnable. » Et il y allèrent. Donc 3 heures plus tard, maintenant il est 9 heures du matin, le maître va au marché et il voit qu'il y a encore des gens qui attendent là pour être engagés. Ils ne font rien. Alors, il les engage sur le champ. Aucune négociation de salaire n'est mentionnée. Il leur dit tout simplement, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Apparemment, il est connu, un homme honnête. Il leur promet, écoutez, allez travailler, garantie que je vous ferai justice. Donc ils partent à 9 heures du matin pour une journée de 9 heures. Verset 5. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, midi, et vers la 9e heure, qui est 15 heures, et il fit de même. Donc à midi, alors midi, il fait chaud à midi, hein. Et à la 15e heure, donc à 3 heures de l'après-midi, il fait très très chaud, il est de nouveau là, sur la place du marché, et il voit encore des ouvriers qui attendent, eux, d'être engagés pour la journée. Et le texte nous dit qu'il fit de même. Donc il les engage, et il leur promet un juste salaire. Alors ceux de midi, ils ont une journée de 6 heures devant eux, ceux de 15 heures, ils ont une journée de 3 heures devant eux. Rien n'est du montant. Verset 6. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Et ils lui répondirent, « Ce que personne nous a loué, allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Alors maintenant, c'est quoi ? C'est la 11e heure. Donc, 17 heures, 5 heures de l'après-midi. La journée termine une heure plus tard, à 18 heures. Et il va dans le marchait là et voit qu'il y a encore des gens qui, à 17 heures, attendent d'être engagés. Alors, il leur demande pourquoi ils étaient là. Ils répondent que personne ne les avait engagés. Alors, comme pour les autres, le maître, un très bon maître, très généreux, dit, écoute, je t'engage. À 17 heures de l'après-midi, je t'engage. Il les envoie à la vigne pour travailler. Moi, si j'étais eux, je pense que j'aurais été super heureux. Ça fait au moins 11 heures que j'attends, ou peut-être qu'ils étaient arrivés plus tard, j'en sais rien. Bref, ils sont tout contents, ils partent pour travailler une heure dans la vigne. Voilà l'histoire. Pas compliqué. 5 vagues successives d'ouvriers, et que maître engage 3 heures à 3 heures en intervalle. Donc les ouvriers sont engagés à 6 heures du matin, 9 heures du matin, midi, 15 heures et 17 heures. Et là, on arrive maintenant au verset 8. On va lire dans quelques instants. Nous sommes à la fin de la journée, au moment de la paye. Alors, je vais vous poser une question. Je sais qu'en Suisse, on ne devrait pas trop parler d'argent, et en France non plus, et tout ça. Je vous pose une question. Est-ce que vous aimez être payé? Ah, je vois les sourires, là. Les sourires. Ah, d'accord. Eh, attendez voir, franchement, on travaille, et quand on est payé, on est heureux. Quand vous recevez votre fiche de paye, vous dites, enfin, je pense dans votre cœur, ouais, j'ai travaillé, super, je viens d'être payé, maintenant je peux payer toutes mes factures que j'ai peut-être pas envie de payer, d'accord, mais au moins je peux les payer. Non, on aime être payé, moi aussi. Même Jésus a dit qu'un ouvrier, tout ouvrier, mérite son salaire. Donc ce n'est pas un mal d'aimer être payé pour un travail bien fait. Très bien. Alors je pense que ces ouvriers se disent, ah, chic, 6 heures du soir, je prends ma paye et je rentre chez moi. Verset 8. Quand le soir fut venu, donc il est maintenant 18 heures, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. Donc l'intendant, c'est le gars qui gère les affaires du maître, et c'est à lui qui va maintenant payer les ouvriers qui ont travaillé. Et alors, cet intendant fait deux choses vraiment étranges. La première chose étrange qu'il lui demande de faire, c'est de payer les ouvriers en allant des derniers aux premiers. Alors, je sais pas, vous savez, nous, on est en Suisse, on aime la logique. Moi, j'aime les choses logiques, droit, A, B, C. Moi, j'aurais fait l'opposé. S'il y avait eu un ordre, j'aurais fait l'opposé. J'aurais pas payé les derniers engagés en premier, j'aurais payé les premiers engagés en premier. Moi, pour moi, c'est beaucoup plus logique de faire ça. Mais lui fait l'inverse. Ceux qui sont payés les derniers en premier, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, qu'est-ce qui se met? Il y a une queue qui se forme devant le gars, parce qu'ils sont payés comme ça, hein, d'accord? Et la queue, donc les gars qui ont travaillé une heure tout devant, et les gars qui ont travaillé 12 heures tout derrière. Mais il y a une deuxième chose étrange qui fait ici. C'est la somme payée à chacun. Le verset 9 nous dit, « Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. » Alors, regardez ce qui se passe. Donc, les gens se mettent en ligne, et le gars qui a travaillé qu'une heure, il n'y a même pas encore de la sueur sur son front. Il est tout devant. Et le verset 9 nous dit qu'il reçoit un denier. Un denier. Allez voir. Vous êtes ouvrier. Vous venez de travailler une heure, et ça prend du temps pour aller de la place au marché à la vigne et le retour. Donc, peut-être vous avez vraiment travaillé 45 minutes, ou peut-être voire 30 minutes. Même pas une goutte de sueur, vous avez cueilli quelques raisins, vous rentrez et le gars il vous donne, tac, un denier, un jour de paye. Un jour de paye pour une heure maximum de travail. Quelle est votre réaction? Déjà, vous n'y croyez pas. Et quand vous réalisez que la paix est juste, enfin, ce qu'il vous donne, vous êtes « Wow, c'est le meilleur jour de ma vie !» là. Parce qu'en fait, ce que veut tout homme, honnêtement, je vous connais, ce que vous aimeriez, c'est de faire un monstre salaire pour peu de travail. Je sais que c'est ce que vous voulez, parce que c'est ce que j'aime moi aussi, d'accord? Pourquoi? Parce que nous sommes maudits, d'accord? Nous sommes maudits, le travail c'est une malédiction. Donc à la base, on n'aime pas vraiment travailler, bien qu'on sait que c'est bien. Mais l'idéal, c'est de travailler peu et gagner beaucoup. Mais bien sûr, c'est ce que tout le monde veut. Et ce gars-là, ce jour-là, il s'est dit, mais c'est le plus beau jour de ma vie. Incroyable. C'est le rêve. Alors, très vite, ce qui s'est passé en début de ligne commence à faire toute la queue. Oui. Alors, une fois que les gens tout derrière, qui ont travaillé toute la journée, entendent ce qui s'est passé devant la ligne, et que les gens qui ont travaillé une heure ont reçu un denier, qu'est-ce que vous pensez que les gens tout en queue de ligne se disent? Ben, le verset 10 nous le dit. Les premiers vinrent ensuite croyant recevoir davantage. Ils se sont dit, mais il est super ce patron. Il donne un denier au gars qui a travaillé une heure, et donc moi je fais le calcul, j'y travaille 12 heures, moi je vais me taper 12 deniers aujourd'hui. C'est sûr et certain. C'est ce qu'ils croient, ils croient qu'ils vont recevoir davantage. Puisqu'ils ont payé le premier qui a travaillé très peu tellement, ils se disent, moi je vais avoir le même top. C'est génial, ils sont tous derrière, waouh, génial! J'ai travaillé un jour et je vais recevoir 2 semaines de salaire. C'est quand même le top du top, ça, il faut dire ce qui est. Alors tous les regards maintenant sont en train de regarder à l'intendant qui paye tout le monde pour voir ce qui se passe. Et ils commencent à payer les ouvriers l'un après l'autre, et puis lentement, l'expression des ouvriers en fin de ligne commence à changer. Pourquoi? Parce qu'ils ont très vite réalisé que l'intendant payait chaque ouvrier exactement le même montant. Un denier chacun, quel que fût le nombre d'heures travaillées. Donc le gars qui a travaillé une heure, un denier, le gars qui a travaillé 3 heures, un denier, le gars qui a travaillé 6 heures, un denier, le gars qui a travaillé 9 heures, un denier, le gars qui a travaillé 11 heures, un denier. Tout le monde reçoit exactement la même paye. Verset 10. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Alors je m'arrête ici, je vous pose une question. Est-ce que vous pensez que c'est juste? Oh, est-ce que vous ressentez un inconfort dans la question là? Est-ce que c'est juste? Ah, on ne sait pas trop comment répondre, hein? Et je crois que souvent la première réaction, c'est de dire non, c'est pas juste. Est-ce que c'est juste ou c'est pas juste? Alors vous n'avez pas besoin de répondre, d'accord? Mais c'est le but du texte ici. Il y a semble-t-il une injustice et on ne sait pas quoi faire avec. Quelque part, je comprends la réaction des ouvriers en fin de queue, humainement parlant. Surtout si on est en Suisse, on dit, mais c'est pas juste, si tu travailles une heure, tu devrais te payer une heure, si tu travailles 12 heures, tu devrais te payer pour 12 heures. Donc 12 fois le montant, ça paraît logique, si on paye à l'heure. Et le verset 12 est vrai, ils dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous, nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Ils disent, ouais mais écoute, moi j'ai travaillé 12 heures, j'ai subi la chaleur écrasante de l'Orient pendant 12 heures. Et eux, les derniers, là, ils arrivent à 17 heures avec une petite brise fraîche du soir, ting, ils cueillent 2-3 raisins et là ils ont le même montant, c'est quand même pas normal. Alors verset 11... En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Ils ne sont pas contents. Alors, quelle est la réponse du maître au verset 13? Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'a-t-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu du mauvais œil que je sois bon? » La clé du texte, en fait, c'est le verset 13. Il répond, « Mon ami, je ne te fais pas tort. Je ne te fais pas tort. » Alors, je vais vous poser une question là. Réfléchissez avec moi, d'accord? Est-ce que le maître fut injuste de payer les derniers arrivés un denier? Est-ce que c'est injuste de payer le gars qui a travaillé une heure un denier? Non. C'est super généreux. Vous n'êtes pas d'accord? C'est super généreux. Donc, c'est pas injuste, c'est juste généreux. Est-ce que vous pensez que c'était injuste de payer les premiers venus un denier? Non, c'était la paye convenue. Ils avaient convenu. Ils étaient d'accord. Donc c'est tout à fait équitable, c'était juste. Si tu as accepté d'être payé un denier, t'es content. Donc il n'était pas injuste non plus. Est-ce qu'il était injuste de payer les autres venus tout au long de la journée un denier? Non, c'était plus que raisonnable. C'était généreux. En fait, ce qu'on apprend ici, c'est que le maître était généreux avec tout le monde. Tout le monde a reçu plus de ce qu'il méritait. Même le gars qui a travaillé 12 heures, il a reçu le salaire d'un soldat romain et il n'était pas qualifié. Donc tout le monde était mieux servi qu'il aurait dû être. Donc le problème ici, ce n'est pas le maître. Non, le problème ici, écoutez bien, c'est l'attitude des ouvriers. L'attitude surtout des ouvriers engagés en début de journée. Ils voyaient de mauvais œil, nous dit le texte, qu'il était bon envers tous. Ça voulait dire qu'ils étaient tout simplement jaloux. Ils étaient jaloux. Alors voilà la parabole. Voilà la parabole. Alors ça, c'est tout le défi de l'étudiant de la Bible. C'est qu'il voit cette parabole, on l'a à peu près comprise, il faut se poser la question, mais elle veut dire quoi? Pourquoi elle est là, cette parabole? Pourquoi est-ce que Jésus l'a dite? Eh bien, c'est mon deuxième point, le pourquoi. On passe de la parabole au pourquoi. Pourquoi est-ce que cette parabole est là? Et ce qui est bien, c'est que ça va vous aider, je vais vous montrer comment on essaye de découvrir le sens d'un texte. D'accord? Déjà, il faut se poser la question, pourquoi cette parabole est-elle là? Alors, la première règle pour comprendre un texte, ce qui est difficile, c'est se dire, est-ce que le contexte de ce texte peut me révéler quelque chose? C'est ce qu'on va voir. Le verset 16, le contexte. Le contexte, c'est ce qu'il y a devant et après. Le verset 16, il dit, « Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Certaines Bibles ajoutent la phrase, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Mais cette phrase n'apparaît pas dans les meilleurs manuscrits et aurait été empruntée de Matthieu 22, 14. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, verset 16, « Ainsi. » Donc on sait très bien qu'il fait un lien entre la parabole et ce qu'il va dire maintenant. « Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Alors ça veut dire quoi ça? Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Pensez-y. En fait, il parle d'égalité. Si les derniers sont comme les premiers et les premiers sont comme les derniers, il parle d'égalité. Et apparemment, c'est ce que la parabole illustre si bien, l'égalité. Et puisque c'est une parabole sur le royaume des cieux, verset 1, cette phrase souligne l'égalité dans le royaume des cieux. Comme quoi, à la fin, les premiers et les derniers terminent pareil. Ils passent la ligne d'arrivée en même temps, ils arrivent ex aequo. Tous les ouvriers, qu'ils étaient engagés tôt ou tard dans la journée, reçoivent un denier chacun. C'est ce qu'on appelle l'égalité. Ok, donc il y a égalité dans le royaume des cieux. Reculons maintenant. Chapitre 19, verset 30, regardez. Plusieurs des premiers sont les derniers et plusieurs des derniers sont les premiers. Ah, c'est exactement la même phrase que le verset 16 du chapitre 20, mais inversé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah pareil, ces deux phrases sont liées. D'accord, il parle d'égalité. C'est comme un sandwich ici, il y a pain, viande, pain. Il y a le verset 30, le verset 16 avec la parabole au centre. Donc, ces deux versets essayent d'expliquer le pourquoi de la parabole. Mais on ne comprend toujours pas exactement le pourquoi, dans quel sens est-ce qu'il y a une égalité ici. Bien, il faut reculer encore. Le verset 29 du chapitre 19. « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple héritera la vie éternelle. » Ah ! On vient d'atterrir sur la clé. Les deux derniers mots du verset 29. Vie éternelle. La vie éternelle. Oui, la clé, elle est là au verset 29. Quel est ce qu'il dit par rapport à l'évangile ? Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Le contexte de la parabole, c'est donc la vie éternelle, la destinée finale de tous les croyants. C'est ce qu'on appelle le salut. Et le chapitre entier, chapitre 19, a donc comme thème le salut. Et c'est dans ce chapitre qu'on a l'histoire du jeune homme riche. Regardez verset 29 encore. Quelque aura été le sacrifice engendré pour suivre Jésus-Christ, la vie éternelle est promise pour tous ceux qui suivent Jésus-Christ. Donc, on revient à la parabole. Que tu aies été engagé en début de journée, ou en fin de journée, que tu aies travaillé toute la journée ou que la dernière heure, que tu aies servi le maître dans la chaleur écrasante du soleil ou dans la brise du soir, la destinée finale est pareille pour tous. La paye est la même. Tous les croyants reçoivent un denier qui symbolise la vie éternelle. Alors, je ne vous apprends rien de nouveau si vous êtes chrétien. Jean 3,16 nous le dit en un verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive ou qu'il ait la vie éternelle. Quand vous annoncez l'évangile à quelqu'un, vous leur dites, écoute, tes péchés sont une offense à Dieu, tu as besoin de te repentir tes péchés, et tu as besoin de croire en Jésus-Christ, demander à Jésus-Christ de devenir ton sauveur et ton Seigneur. Si tu fais ça, il pardonnera tes péchés, il te donnera la vie éternelle. Ça, vous l'annoncez à toute personne à qui vous annoncez l'évangile. La vie éternelle est disponible pour tous. Moi, j'aime beaucoup Éphésiens 1, 3 et 4 qui dit ceci. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Écoutez, on pourrait dire ça à quelqu'un en lui annonçant l'évangile. « Écoute, tu sais ce qui t'attend ? Si tu reçois Christ comme Sauveur et Seigneur, il va te bénir de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » C'est comme une cascade de bénédictions qu'il va mettre sur toi quand tu connais Christ. Et ça, tu le dis à qui ? À tout le monde. À tout le monde qui vient à Christ. Tout le monde reçoit cela. Et voilà ce que nous enseigne cette parabole. Elle nous enseigne que la vie éternelle est promise à tous ceux qui suivent Jésus-Christ. Vous dites maintenant, John, c'est tout ? C'est ça ce que nous enseigne cette parabole, c'est tout, que la vie éternelle est disponible pour tout le monde? Oui, c'est le but de la parabole. Et vous dites, ouais, mais John, écoute, franchement, est-ce qu'il y avait besoin de presque un chapitre entier dans la Bible pour dire ça? Jean est beaucoup plus économe, Jean 3,16 est beaucoup plus économe en mots, en un verset, tu peux le dire. Pourquoi donner tout ce chapitre alors? Eh oui. Parce qu'il veut qu'on creuse encore plus dans ce chapitre pour comprendre quelques éléments de la grâce de Dieu. Sinon, il n'y aurait pas donné tous ces détails. Et donc, c'est ce que j'aimerais vous montrer maintenant dans le troisième point. Quels sont les principes qu'on doit tirer? Alors, on vient d'apprendre que tout le monde reçoit la vie éternelle. D'accord? Lorsqu'il reçoit Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est le but du chapitre 19 et de cette parabole. Alors, quels sont les principes? Bien, j'aimerais voir avec vous trois applications. Ou trois principes qui découlent de cette parabole. Et voici la première. La grâce de Dieu se voit dans cette parabole lorsque nous considérons les différentes durées de service au Seigneur par les croyants. Le temps qu'on connaît le Seigneur. Le temps, la durée de notre service. Dans la parabole, retournons à la parabole. Il y a des gens qui ont été engagés en début de journée. Ils ont travaillé combien d'heures en tout? Ben, disons 11 heures, presque 12, ouais, non, 12 heures. De 6h à 6h, d'accord? D'autres ont travaillé 9h, d'autres 6h, d'autres 3h, d'autres 1h. Mais ils ont tous reçu la même paye. Ben pensez-y. La même chose est vraie avec la vie éternelle. Tous les croyants, quelle que soit la durée de leur service de foi, reçoivent la vie éternelle. Dans notre église, il y a des gens qui sont âgés et qui ont servi le Seigneur pendant de longues années, avec des hauts et des bas, parfois laborieux, des fois des moments de grande joie. Puis ensuite, il y a des gens qui se sont convertis il y a juste quelques semaines ou quelques mois de cela. Et aujourd'hui, on sera tous d'accord de dire, ben, si tu connais Christ, que tu l'aies servi longtemps ou peu, tu as la vie éternelle. Allez avec moi dans Genèse chapitre 5. Je vais vous montrer un truc vraiment intéressant. Genèse chapitre 5, verset 22. Il y a un personnage très intéressant dans Genèse 5, au verset 22, qui s'appelle Enoch. On va commencer au verset 21, d'accord ? Chapitre 5 de Genèse, verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Enoch, après la naissance de Methuselah, écoutez bien, marcha avec Dieu combien de temps? J'ai mal entendu là. 300 ans. Oui, c'est pas une erreur. À l'époque, il vivait très très long. Par exemple, prenez verset 12, Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahalel. Il vécut après la naissance de Mahalel 840 ans. Ah, les gens, ils vivaient super long. Vraiment long avant le déluge. Et alors, Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Il engendra les fils de les filles. Tous les jours d'Enoch furent 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Alors, Enoch, c'est intéressant, c'est un des rares personnages dans la Bible qui n'est pas mort. À un moment donné, ben, il était là dans sa vie, et tout d'un coup, Dieu l'a pris. Paf, il est parti comme ça. Sans mourir, une mort normale. Dieu l'a pris. Il est allé où? Eh bien, lorsque Dieu a fait pareil avec Élie, de la même manière, il est dit dans 2 Rois 2.11 qu'il monta au ciel dans un tourbillon. Donc, Enoch marcha avec Dieu 300 ans, puis un jour, pfouf, Dieu l'a pris au ciel. Au ciel. Donc, il est où aujourd'hui, Enoch? Au ciel. Après avoir marché avec lui 300 ans. Maintenant, avec moi, Luc 23. Luc 23. Verset 42. Jésus est crucifié, il a un brigand à droite et un brigand à gauche crucifié aussi. Il y a une conversation qui s'enclenche entre lui et les brigands. Et au verset 42, un des brigands dit à Jésus dans Luc 23, 42, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Écoutez bien, tenez-vous bien. Ce gars, c'est un brigand, d'accord? Il est là, crucifié à côté de Jésus. Il lui dit, « S'il te plaît, souviens-toi dans mon règne, dans ton règne. » Jésus lui dit ceci, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, question. Pendant combien d'heures ou de temps est-ce que ce brigand sur la croix, il a cru en Jésus-Christ? On sait que quelques temps, juste après, on est venu, on lui a cassé les jambes pour qu'il meure plus rapidement. Vous vous rappelez? Donc il a peut-être vécu encore une heure, deux heures, trois heures, je n'ai pas exactement le nom, mais c'est très peu. Et Jésus lui a dit quoi? Qu'aujourd'hui tu seras où? Dans le paradis avec moi. Donc quelle était sa destinée finale? Le paradis. Écoutez, il est étonnant de penser qu'au fait qu'une personne qui vient à Christ une heure avant de mourir passera l'éternité dans la joie du paradis éternel de Dieu, tout autant qu'une personne qui a marché avec Dieu pendant 300 ans. Voyez-vous, Enoch et le brigand sur la croix, ils sont où? Ils sont les deux avec Dieu dans le paradis, malgré le fait qu'un a vécu sur terre 300 ans en train de marcher avec Dieu et l'autre 2-3 heures. C'est la parabole parfaitement illustrée là. Certains, pendant toute la journée, ils ont travaillé, d'autres une heure, et les deux reçoivent un denier, le paradis. Vous savez, quand je suis devenu chrétien en 1976, j'ai beaucoup parlé avec ma famille pour essayer d'amener tout le monde à Christ. Et certains ont capitulé, d'autres pas, à l'amour de Jésus-Christ. Et un qui a résisté, c'est mon grand-père. Ma grand-mère est venue à Christ, mais mon grand-père, il était résistant. Il habitait dans le Oklahoma. Et un jour, il est mort. Donc, l'infirmière nous appelait pour nous dire qu'il était décédé. Alors moi, j'étais dévasté, mais elle a dit, « J'aimerais vous expliquer ce qui s'est passé. » Il nous a expliqué l'histoire, qu'à vers les 3 heures du matin, tout d'un coup, mon grand-père, dans son lit d'hôpital, mourant, a ouvert les yeux, et avec toute la force qu'il avait, il s'est levé, il s'est assis dans son lit. Et ensuite, il a levé les bras, au ciel, il a dit, « Jésus, s'il te plaît, sauve-moi. » Et il est retombé dans son lit, il est mort. Alors, je ne peux pas vous dire la foi de mon grand-père exactement, moi je n'y étais pas, il n'y a que Dieu qui sait. Écoutez mes amis, si la foi de mon grand-père était authentique, si à cet instant il s'est vraiment repenti de ses péchés et a accepté Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur, il est où? Il est au ciel. 30 secondes ou une minute avant sa mort. Donc, mon grand-père, au ciel. Le brigand sur la croix, 1, 2, 3 heures, au ciel. Enoch, 300 ans, il a marché avec Dieu. Et ils ont le même ciel. Alors moi, je vous pose une question, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste que ce brigand ou que mon grand-père, qui a rejeté Christ pendant toute sa vie, reçoive le même ciel que Enoch? Non. C'est pas juste. Ça, c'est la grâce de Dieu. Voyez-vous, la grâce de Dieu est telle que aucun ne mérite le denier. Aucun le mérite. Et si on le reçoit, c'est tout par grâce. C'est tout par grâce. Moi, je me dis, et moi, je suis où dans tout ça? Ben, je suis peut-être un des ouvriers engagés au milieu de la journée. Je me suis converti à 19 ans, j'en ai 61 aujourd'hui. Dieu me donne le ciel. Et puis toutes les gaffes que j'ai faites, Dieu me donne le ciel. Pas à cause de moi, mais à cause de sa grâce. Parce que lui, en donnant son fils, m'a pardonné mes péchés. Comme il l'a fait pour mon grand-père et comme il l'a fait pour Enoch. Donc ça, c'est le premier principe. Deuxième principe. La grâce de Dieu se voit dans cette parabole lorsque nous comparons les sacrifices inégaux subis par les chrétiens. Là, c'est bien plus difficile, d'accord? Voyez-vous, dans cette parabole, certains des ouvriers devaient subir la chaleur écrasante de la journée. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Israël. Moi, j'ai travaillé dans un kibboutz là-bas. Et on devait se lever à 4 heures du matin pour aller cueillir les olives tellement il faisait chaud. Et à 11 heures du matin, on est cuit, quoi. Et donc c'est arrêt, on va se baigner, quoi, parce que il y a trop chaud. Et si vous avez fait des tours en Israël, vous savez, ça c'est qu'en novembre, hein, c'est paf, paf, paf. Mais septembre, août, c'est encore plus violent. Et donc, certains de ces ouvriers ont subi la chaleur de toute la journée, le soleil, le dur labeur à cueillir des raisins pendant 12 heures d'affilée. Imaginez, ils avaient soif, ils avaient faim. Ils n'avaient pas de glacière en bout de champ plein de canettes de coca ou de bouteilles d'eau fraîche. Vous savez, certains, maintenant, il y a des sacs à dos avec des petits tubes et on peut boire à longueur de journée. Ils n'avaient pas tout ça à l'époque. Non, il fallait un puits et des gourdes faites en peau de je ne sais pas trop quoi. Ah, le travail était dur, labeur long et pénible. Ceci illustre bien une vérité de la parabole. Certaines personnes viennent au Seigneur dans les pays qui sont très hostiles à leur foi. Ils doivent sacrifier énormément, leur labeur est difficile. C'est ce que Pierre disait juste avant, dans chapitre 19, versets 27 et 29. « Seigneur, nous avons suivi, nous avons tout donné, qu'est-ce qui est là pour nous ?» Regardez dans Matthieu 20, verset 19-27, il dit, « Pierre prenant alors la parole lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous ?» Il leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs ou ses pères ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et hérita la vie éternelle. » Il est en train de dire, écoutez, oui, certains doivent sacrifier énormément lorsqu'ils viennent à Christ. Énormément. Allez louer le film Paul, apôtre de Jésus-Christ. Bien sûr, c'est un tout petit peu romancé, mais globalement, le film, je le trouve très fiable vis-à-vis de la parole de Dieu. Et là, vous verrez la souffrance des chrétiens jetés dans les arènes. Incroyable. Moi, j'y pensais encore ce matin, dans mon lit, en train de penser à ces gens. Et je me disais, mais Seigneur, moi, si un jour je vais être dans cette arène, et juste avant d'être dans l'arène, il y avait un des croyants qui a dit, écoutez, ça va faire très mal pendant quelques instants. Et ensuite, ce sera fini, et vous serez avec le Seigneur. Et je me dis, tu te rends compte de rentrer dans une arène comme ça, de voir des lions venir te bouffer, et tu dis, mais comment on subit ça? Comment on subit ça? Il a dit, quelques instants ça fera mal, puis ensuite ce sera une éternité avec le Seigneur. y a des gens qui ont vraiment énormément souffert. Un de mes musées préférés en France, c'est le musée du désert. Le musée du désert dans les Cévennes à Alès, c'est un musée qui retrace les pas des Huguenots. Les Huguenots étaient les chrétiens français à l'époque de Louis XIV. Et raconte cette, ce qu'on appelle la période du désert, surtout 1702 à 1704, où le roi Louis XVI avait les dragons du roi, c'était son armée, pour aller débusquer les protestants et les faire changer, comment on appelle ça, ils devaient abjurer à tout prix. Ils avaient tout droit de les torturer de n'importe quelle manière pour les faire abjurer de leur foi protestante. Et alors bien sûr, c'est Louis XVI qui a vraiment eu, enfin ça c'était vraiment le pire de tout cela. Et donc beaucoup ont quitté la France, ils ont essayé de quitter la France, sont venus en exil, sont venus en Suisse, sont dans d'autres pays. Mais pas tous ont réussi à partir. Alors, si à cette époque vous étiez pasteur, alors Meg et moi on était à Paris il n'y a pas longtemps, et on est allé visiter la conciergerie. La conciergerie, c'est là où on a, décapité Louis XVI et Marie-Antoinette. Et c'était la prison de Marie-Antoinette. On est allé voir tout ça. Et il y avait une explication de certains des supplices. Et donc, j'ai vu cette photo. J'aimerais vous la montrer. D'accord ? Si j'avais été pasteur à l'époque, de 1702 à 1704, eh bien les pasteurs recevaient le pire des supplices qui s'appelle la roue. Donc, j'ai vu cette photo à la conciergerie. Je l'ai prise. Donc, les pasteurs étaient attachés à une roue d'un char qu'on voit ici horizontalement, sur une place publique, élevée, pour que tout le monde puisse voir. Ils étaient attachés comme ça, et là, il y a le bourreau avec une barre en fer. Et le bourreau commençait par les pieds, et il cassait chaque os dans le pied, et ensuite dans la jambe, et ensuite, autre pied, autre jambe, ensuite les doigts, il cassait, en étant certain de ne pas tuer le pasteur. Et ensuite, il commençait à casser tous ses os, et tout le monde regardait, pour être sûr qu'il ne meurt pas. Et ensuite, on le laissait pourrir là-haut pendant jusqu'à 3 jours. Ça, c'est les supplices qu'on donnait aux pasteurs. Les femmes de pasteurs étaient, elles, envoyées à la célèbre tour de Constance. Et j'ai aussi une photo. Alors, je viens de dire que la tour de Constance était une prison avec des murs 6 mètres d'épais. On est allé voir. Hein. Marie Durand était la plus célèbre des prisonnières. Je crois que j'ai une photo d'elle. Ça, c'est l'intérieur de la prison. Tu peux reculer juste pour voir un petit peu. Donc, ça, c'est un cercle avec... on voit l'épaisseur des murs. Hein. Prochaine. Et là, c'est une... bon, bien sûr, c'est une peinture de Marie Durand. Elle est la plus célèbre des prisonnières. Elle fut enfermée pendant 38 ans dans cette cellule. 38 ans. On est allé dans la cellule. Chaque semaine, un prêtre venait lui demander si elle voulait abjurer. Elle aurait pu sortir une femme libre à n'importe quel moment. Mais au lieu de cela, elle en grava dans la pierre. Elle grava dans la pierre ces fameuses paroles, on peut voir, résister. Et on voit encore là où c'était marqué. Résister. Chrétien, résister. Les enfants de pasteurs, eux, ils étaient envoyés dans les couvents pour être obligatoirement instruits dans la religion du roi. Donc si ça avait été Meg et moi, j'aurais été reçu la roue. Elle, à la tour de Constance, nos enfants dans les couvents pour être enseignés dans le catholicisme. Alors si un jour vous venez dans mon bureau, vous allez voir ça. Une photo de Meg, prise, je crois que c'était à notre 20e anniversaire de mariage, donc il y a quelques années en arrière. Et à côté de cette photo, j'ai depuis toujours une photo de la tour de Constance. Pour me rappeler que si on avait vécu à cette époque, moi, j'aurais reçu la roue, et elle serait encore dans la tour de Constance. Et nos enfants, envoyés dans les couvents quelque part. C'est incroyable ce que certains chrétiens ont subi pour l'Évangile. Incroyable. Alors, bien sûr, on se pose des questions, mais ils sont où tous ces gens aujourd'hui ? Ah, bien sûr, quand tu souffres comme ça... quand tu connais le Christ, il n'y a aucun doute. Tu dirais, ben, ils sont bien sûr au ciel avec le Seigneur. Je crois que tu peux éteindre là parce qu'on a fini les photos. Hein. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 19, 29, « Quiconque aura quitté à cause de mon nom, frère, sœur, père, mère, femme, ses terres, ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Tout ce qu'on est en train d'illustrer ici, c'est que certains ont souffert énormément pour l'Évangile. Mais pas tous. Certains, et je me mets dans ces deuxièmes catégories de personnes, certains ont très peu souffert pour le nom de Jésus-Christ. Certains même donnent l'impression de jamais souffrir pour Christ, de très peu sacrifier quoi que ce soit dans leur vie. Ils habitent dans des pays libres parce qu'ils sont nés dans des époques dans les pays libres, riches, prospères. Ils ont des super métiers, ils travaillent dans des sociétés qui ont beaucoup d'argent. Ils accumulent des richesses, ils ont des comptes en banque, ils achètent des maisons, conduisent de belles voitures. Ils partent même en vacances, pendant longtemps, dans le monde entier maintenant. Ils vont skier dans les Alpes ou vont faire de la plongée sous-marine à l'autre bout du monde. Ils ont une bonne santé, une bonne assurance santé. Ils ont un bon programme de retraite. Et ils se font même construire des maisons secondaires. Ils vivent dans des pays de liberté chrétienne totale, peuvent rêver des rêves chrétiens, peuvent enseigner, prêcher, évangéliser librement. Ils peuvent ouvrir des écoles chrétiennes, des instituts bibliques, des facultés de théologie. Ils peuvent posséder des bibles, des livres chrétiens, diffuser des CD, avoir des sites internet super bien faits dans leur église. Ils peuvent organiser des concerts chrétiens, écrire des livres chrétiens, avoir des programmes radio chrétiens et même des programmes de télévision chrétienne. Écoutez, pour certains chrétiens, ils ont quand même une belle vie. Et je me mets dans cette catégorie. Alors voici la question que j'aimerais vous poser. Ceux qui ont sacrifié énormément, comme ces gens, ces pasteurs qui ont reçu la roue et la dame de Graveron, tous ces gens qui ont tellement subi, ceux qui ont sacrifié énormément et ceux qui ont sacrifié si peu recevront le même ciel. Le même ciel. En fait, les deux recevront toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors voici la question quelque part. Moi, je vais recevoir le même ciel que ces pasteurs qui ont subi la roue. Meg va recevoir le même ciel que la dame de Graveron qui a, excusez-moi pas, de Marie Durand qui a vécu 38 ans dans une cellule pour sa foi. Vous allez recevoir, si vous connaissez Christ, le même ciel que ces gens qui ont sorti pour se faire bouffer par des lions dans les arènes romaines. Et je pose la question, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste pour moi que je reçoive le même ciel, la même vie éternelle, les mêmes bénédictions que ces gens-là? Moi qui ai si peu souffert pour Christ? Non, mes amis, ça c'est pas juste. Vous savez ce que c'est? Ça, c'est la grâce. Que moi, je puisse recevoir ce même cadeau que eux, qui ai si peu souffert. Non, c'est pas juste. C'est la pure grâce de Dieu. Je dis, oui, mais il y a des récompenses, oui. 1 Corinthiens 3 nous parle de récompenses. Honnêtement, c'est un peu flou pour moi. Moi, je comprends pas comment être peut être ciel ou être tous au ciel et en plus recevoir des récompenses. Ça, j'ai pas encore maîtrisé ça, d'accord? Alors oui, il y aura des récompenses. Mais dans l'Apocalypse, on a l'impression que les récompenses et couronnes qu'on va recevoir, de toute façon, on va les remettre aux pieds de Jésus. Écoutez, dans la gloire du ciel, nos souffrances, aussi horribles qu'elles aient été, vont paraître comme à rien. Paraître comme à rien. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est pas juste, mes amis. C'est pas juste, c'est la grâce de Dieu. Des fois, je me dis, mais j'arriverai à souffrir comme eux? Je me dis, non, j'y arriverai. Non, humainement, moi, je me dis, moi, je n'y arriverai pas, quoi. Mais eux se disaient peut-être la même chose. Et à un moment donné, ben, Dieu leur donne la grâce pour pouvoir subir ce genre de souffrance. Je ne souhaite pas à nous. Il faut être prêt. Mais je crois que nous devons bénir et remercier le Seigneur pour cette grâce dans nos vies, quoi. C'est incroyable. Allez, je termine. Troisième point, la grâce de Dieu brille dans cette parabole. Troisièmement, lorsqu'on considère, oh là là, la patience étonnante du Seigneur vis-à-vis des chrétiens rétrogrades, ceux qui tombent dans le péché. Alors écoutez, ce point va nous rendre inconfortables. On est de nouveau dans la parabole, d'accord ? Certains ont travaillé dur, ils ont beaucoup souffert, d'autres pas, ils ont tous reçu leur denier. Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est qu'à la fin de la journée, lorsque le temps de la paye était arrivé, les ouvriers engagés en début de journée, ceux qui ont travaillé les longues heures, 12 heures, ont eu un problème d'attitude. Écoutez bien ce que je vais dire. Pas juste. J'ai travaillé 12 heures. Je devrais recevoir plus. Ils ont crié, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut recevoir autant d'eux, autant qu'eux, qui ont travaillé qu'une heure et moi 12 heures? C'est pas juste. Alors, vous savez ce qui est le plus étonnant dans cette parabole? C'est que ces râleurs, ils ont reçu leur denier aussi. Ils avaient une mauvaise attitude. Ils ont râlé. Ils n'étaient pas d'accord. Et ils ont quand même reçu leur denier. Aïe, 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 aïe. C'est là où je vois la grâce de Dieu gicler sur les pages de ma Bible, quoi. Voyez-vous, Dieu donne la vie éternelle à tous ceux qui travaillent dans sa vigne, à tous ceux qui ont reçu Christ comme Sauveur et Seigneur. Ben, la sanctification, ça peut prendre très longtemps. Et on peut, même en tant que chrétien, devenir des râleurs. Et on peut vivre parfois dans le péché. Oui. Oui. Et Dieu dit, je t'aime, voici ton denier. Pas parce que ta vie est tellement parfaite, mais parce que mon fils Jésus-Christ est mort à ta place. Il a pris tout ton péché sur lui. Et donc il n'y a plus de condamnation sur toi à cause de mon fils. Ouais, mais je suis un râleur. Je t'aime. Voyez-vous, Dieu donne le ciel à tout croyant, même aux croyants qui galèrent. Mais c'est normal, on galère tous à un moment donné parce que la sanctification est progressive. On n'est pas changé d'un jour à l'autre. Oui, on est changé, notre cœur est changé, mais notre vie, bah, comme vous le savez, hein, des habitudes, des mauvaises habitudes, ça prend du temps parfois pour être défait. La patience et la grâce de Dieu envers nous, qui luttons avec notre péché. Vous savez, quand je pense à tous ces grands, les Martin Luther, les Jean Calvin, les Marie Durand, les John Wesley, tous ces gens qui ont marqué l'histoire chrétienne, je me dis, waouh, le Seigneur, il va vraiment les bénir, ces gens-là, tu vois. Ça, c'est vrai, peut-être. Mais, des fois, je me dis, le roi David, hein, quand il a commis son adultère avec Bathsheba, et ensuite un meurtre, ensuite toute la galère de sa vie après, et pourtant Dieu a dit de lui qu'il avait un cœur d'après Dieu. Dieu a béni le roi malgré son péché, alors il l'a payé cher, Nathan l'a confronté, il a payé cher son péché. Mais c'était un homme qui a été pardonné par Dieu. Et si vous n'êtes pas convaincu de cela, lisez le psaume 32, le psaume 51. Il a confessé profondément son péché. Ben, si vous avez discuté avec David juste après son adultère, comme Nathan, vous seriez posé la question, est-ce qu'il est vraiment croyant ce gars-là? Ah, prenons un autre exemple, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, le chef des apôtres, waouh, super, il fonceur, fait tas de trucs bien, mais qui a nié Jésus 3 fois? Pierre. À qui Jésus a-t-il dit « arrière de moi Satan » Pierre. Si on avait rencontré Pierre juste après le fait qu'il nie Jésus, on serait dit « mais ce cas-là, je me demande s'il est chrétien. » Non? Voyez-vous, un chrétien peut passer par des moments vraiment bas. Un chrétien peut faire des choix stupides. Un chrétien peut pécher gravement. Je pense que l'homme débauché d'un Corinthiens 5 était un chrétien. Moi, je pense qu'il était chrétien. Il était sorti de l'église et Paul dit de lui, Il le dit, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit en semblant avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Tous les commentateurs sont convaincus que cet homme était chrétien. Pourtant, il était mis hors de l'Église, livré à Satan, en fait, pour son péché de débauche sexuelle. Paul pensait qu'il était croyant, mais dans le péché. Et c'est intéressant, ceux qui prennent la Sainte Cène indignement, dans 1 Corinthiens 11, on nous dit que certains sont infirmes, certains sont malades et beaucoup sont morts. Un chrétien peut être pris par le Seigneur pour prendre la Sainte Cène de manière indigne. C'est quand même incroyable. Mais il est quand même chrétien. Parce qu'une fois que tu es chrétien, tu es chrétien. Écoutez Proverbe 24, 16, « Sept fois le juste tombe et il se relève. » Les justes tombent. Nous tombons parfois. Et voilà ce que cette parabole nous explique. Même les râleurs ont reçu leur denier. Et lorsque je tombe, lorsque je suis dans le péché, lorsque je fais des choix qui sont mauvais, la grâce de Dieu, si je connais Christ, elle est totale et constante dans ma vie. Quand Dieu a demandé à Jonas, va prêcher à Ninive, il s'est parti de l'autre sens. Et il voulait mourir. Si tu avais été dans le bateau, tu aurais conclu, ouais, ce gars-là, je crois qu'il a des problèmes avec le Seigneur, lui. Oh oui. Il y a tellement d'exemples. Tellement d'exemples. Tite 2,11 nous dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Oui, c'est vrai, le chrétien aime Christ. Il aime la sainteté. Il aime faire ce qui est juste. Mais parfois, comme Romains 7 nous le montre, il cède à son péché. Il cède à sa chair. Si c'est ton cas, rappelle-toi que Dieu t'aime. Rappelle-toi que si tu connais Christ, la vie éternelle t'appartient. Repens-toi et reviens à lui. Mes amis, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste que des hommes qui ont péché comme ceux qu'on vient de voir dans la Bible reçoivent la vie éternelle? Non. C'est pas juste. C'est la grâce. Et mes amis, si moi je vais au ciel un jour, je dis pas que j'ai un doute, hein, mais le fait que je vais au ciel, ça, c'est un miracle. Parce que je vous garantis un truc, je ne mérite surtout pas le ciel. Alors là, si c'était mesuré par rapport à ma vie, c'est foutu, complètement, vraiment fichu. Peut-être j'aurais pas dû dire foutu, mais j'aurais dû dire fichu, d'accord? C'est pas possible. Mais la grâce de Dieu, oui. La grâce de Dieu me donne accès au ciel par Christ. Seigneur, merci de tout cœur pour ce passage incroyable sur ta grâce, Seigneur. Elle n'est pas juste, elle est, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait dans nos vies. Merci, Seigneur, que nous vivons dans un temps de paix et que nous n'avons pas encore subi la persécution comme nos prédécesseurs. Ô Seigneur, et merci parce que certains connaissent le Seigneur très tardivement dans leur vie et reçoivent aussi le ciel. Aide-nous à être des évangélistes. Aide-nous à annoncer cette parole autour de nous, Seigneur, parce que l'Évangile change réellement notre destin éternel. Seigneur, merci de tout cœur. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen.